Laudetur Jesus Christus.
C'est une décision qui donne raison aux terroristes. Israël fustige ce soir la décision de l'Espagne, de l'Irlande et de la Norvège, trois pays qui reconnaîtront le 28 mai prochain l'État de Palestine. Direction Madrid en début de journal. Le président français Emmanuel Macron en route encore pour la Nouvelle-Calédonie, plus d'une semaine après le début d'émeutes inédites en 40 ans dans l'archipel français du Pacifique Sud. Nous essaierons de comprendre l'objectif de ce déplacement. En Allemagne, le parti d'extrême droite, l'AfD, a banni de tout meeting électoral sa tête de liste au scrutin européen, Maximilian Haar, et sanctionné pour une série de dérapages. C'est ce que nous verrons. Et puis enfin, nous irons en RDC dans l'Est, à Goma. Plus d'un million de personnes vivent actuellement dans des camps. Les femmes y sont chaque jour menacées. C'est ce que nous expliquera un missionnaire sur place. Il participe à la rencontre de Talita Kum à Rome.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Quand le monde tente de faire bouger les lignes au Proche-Orient, ce mercredi, trois pays, dont deux États membres de l'Union européenne, annoncent donc la prochaine reconnaissance d'un État palestinien dans l'espoir de voir d'autres acteurs européens les rejoindre pour pressuriser Israël et assister, espère-t-il, à la mise en place de la solution à deux États au Proche-Orient. Ces trois pays sont la Norvège, l'Irlande, l'Espagne, où depuis des mois, le Premier ministre Pedro Sanchez affiche son soutien à la Palestine. La correspondance de Luis Marsans.
Devant les députés du Parlement espagnol, Pedro Sanchez s'est voulu solennel ce matin. Mardi prochain, le 28 mai, l'Espagne adoptera en Conseil des ministres la reconnaissance de l'État palestinien. A déclaré le socialiste, cette décision était attendue depuis plusieurs mois déjà. Madrid dénonce la politique d'Israël. Pedro Sanchez accuse son homologue israélien Benjamin Netanyahou de mettre en danger la solution à deux États avec sa politique, je cite, de douleur et de destruction dans la bande de Gaza. Cette reconnaissance était réclamée de vive voix par Soumar, la gauche radicale qui appartient à la coalition gouvernementale. C'est aussi une volonté très majoritaire de la population. 78% des Espagnols soutiennent cette décision. Madrid a toujours été plus proche de la Palestine que d'Israël. L'Espagne est d'ailleurs le dernier pays d'Europe à avoir établi des relations diplomatiques avec Israël. C'était en 1986. Il y a 10 ans déjà, le Parlement espagnol, sous l'impulsion de la droite, avait voté une résolution symbolique appelant à la reconnaissance de la Palestine. Ce matin, Israël a rappelé son ambassadrice à Madrid pour consultation. Côté palestinien, le Hamas et l'OLP ont salué la décision espagnole. Barcelone, Luis Marsans pour Radio Vatican.
Pour Israël, cette décision n'envoie qu'un message, le terrorisme paie, c'est ce que dit ce soir Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. Mais de son côté, le Hamas donc se réjouit, tout comme plusieurs pays arabes, l'Égypte, l'Arabie Saoudite ou encore la Jordanie. Au sein de l'UE, la question divise. Seuls 7 des 27 reconnaissent l'État de Palestine. Prague, Budapest ou encore Stockholm seront donc bientôt rejoints par Madrid, Dublin et Oslo. À Téhéran, une foule immense s'est rassemblée dans le centre de la capitale iranienne pour rendre hommage au président Raisi et à sa délégation, cette personne morte avec lui dans un accident dimanche d'hélicoptère. La télévision d'État parle d'un million d'adieux. La cérémonie était présidée par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. En Ukraine, des morts chaque jour dans les deux camps et l'armée russe qui revendique des avancées depuis 12 jours dans l'Est, la reprise aujourd'hui d'une des quelques localités reprises à l'été par Kiev. Est-ce le contre-coup de ce grignotage progressif depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la mobilisation militaire samedi dernier? En 4 jours, près d'un million d'Ukrainiens se sont présentés dans les centres de recrutement militaire où ont mis leurs données à jour sur Internet, prêts à se mobiliser. Une information de Radio France Internationale. Serait-ce une entreprise de déstabilisation russe en France après les étoiles de David taguées par des Moldaves sur les rues de Paris fin octobre? Ce furent ses mains rouges apposées au mémorial de la Shoah à Paris. La justice confirme aujourd'hui être sur les traces de 3 suspects ayant fui en bus jusqu'en Belgique, des réservations faites depuis la Bulgarie. La Nouvelle-Calédonie, en proie à des émeutes, on le sait, est visée aussi par une cyberattaque inédite dont on ne connaît pas l'auteur. Des institutions, des banques ont été touchées. L'attaque, qui depuis a été stoppée, est intervenue quelques heures après le départ du président Macron pour le territoire d'outre-mer. Il vient, mais dans quel but? Le président français veut rétablir l'ordre, le dialogue entre indépendantistes et souverainistes. Pour Sarah Mohamed Gaillard, spécialiste de la politique française dans le Pacifique à Ninalco, le gouvernement français va devoir revoir son agenda législatif.
Ça va être très compliqué de sortir de cette crise si on n'établit pas des médiateurs. Et je pense qu'effectivement, c'est très compliqué d'installer une mission du dialogue en lui donnant une temporalité à très courte échéance. Donc je pense que le report du congrès qui est demandé, y compris par des non-indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, les forces en place ne sont pas monolithiques. Il y a des voix différentes au sein du mouvement anti-indépendantiste, comme il peut y en avoir aussi au sein du mouvement indépendantiste. Mais bon, Sonia Lagarde, maire de Nouméa notamment, est être naissance a appelé le président de la République à suspendre cette réunion du Congrès, en tout cas à la reporter. Donc s'il n'y a pas de gestes d'annonce qui sont faits autour de cette loi, de son report, j'ai un peu de mal à voir comment un dialogue pourra être renoué sereinement. On ne peut pas dessiner l'avenir de la Nouvelle-Calédonie en ne prenant pas en compte les demandes du peuple kanak.
Des propos recueillis par Alexandra Sirgan. En marche vers les élections européennes, alors que les élèves de la Comessé appellent à un vote responsable encourageant les valeurs chrétiennes, le projet européen. En France, la Grande Mosquée de Paris invite aujourd'hui les musulmans à voter contre l'extrême droite et contre l'esprit de repli. Le recteur de la mosquée craint davantage d'actes islamophobes et de discrimination si en France le RN passait. Le RN qui refuse désormais, tout comme le parti au pouvoir en Italie, de faire groupe à Strasbourg avec l'AFD, le parti d'extrême droite en Allemagne. Alternative pour l'Allemagne est de plus en plus sous pression. Ce matin, sa tête de liste pour les européennes, Maximilian K, a démissionné de ses fonctions dans les instances dirigeantes du parti. Il ne participera plus à la campagne électorale. Delphine Darboli.
C'est la provocation de trop. Dans une interview au journal italien La Repubblica, la tête de liste de l'AFD aux élections européennes a minimisé le rôle des SS, ces soldats membres d'une unité d'élite fanatisée sous le régime nazi. Ces propos ont suscité un tollé, notamment de la part de Marine Le Pen, la chef du Rassemblement National, dont le parti siège dans le même groupe que l'AFD au Parlement européen. Face à de telles provocations, le RN pourrait ne plus siéger aux côtés de l'AFD à l'issue des prochaines élections européennes. Les propos de Marine Le Pen ont eu l'effet d'une douche froide pour l'AFD, qui craint de perdre l'un de ses principaux alliés européens. La direction du parti a donc réagi. Ce matin, Maximilian Kra a quitté toutes ses fonctions au sein de la direction et il ne participera à aucun rendez-vous électoral. Il reste en revanche encore tête de liste, mais totalement invisible. Certains demandent son exclusion du parti, une étape pas encore franchie. Déjà soupçonné de collusion avec des agents chinois et d'avoir peut-être perçu de l'argent de la Russie, les propos relativistes de Maximilian Kra pourraient de nouveau affaiblir son parti, l'AFD qui est en baisse dans les sondages avec 15% des intentions de vote. Berlin, Delphine Nerbollier pour Radio Vatican.
Au Tchad, un peu plus de deux semaines après sa défaite à la présidentielle, le Premier ministre sortant, Succès Masra, a annoncé sur Facebook tout à l'heure avoir présenté sa démission et celle de son exécutif, conformément à la Constitution. Demain, le vainqueur de l'élection dès le premier tour, Mahamat Debit, nous prêtera serment à N'Djamena. En RDC, un conflit foncier ayant dégénéré en violence communautaire a fait plus de 740 déplacés depuis février 2023. On est dans la région de Kisangani, la grande ville du centre-est de la RDC. Et c'est ce qu'affirme le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU aujourd'hui. La RDC qui est également au cœur d'une rencontre à Rome ce mercredi, celle de plus de 200 religieuses de 90 pays, de Talitacum, l'association engagée dans la lutte contre la traite. L'une des formes de traite sont les violences sexuelles dont souffrent notamment les femmes et les filles de l'Est de la RDC, victimes des bandes armées. Certaines d'entre elles sont accueillies dans un centre à Bukavu. Elles suivent un accompagnement. Le père Bernard Hugeux est le responsable de ce centre.
Il y a beaucoup de violence. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'au Congo, nous avons 7 millions de déplacés de l'intérieur. Et parmi eux, il y en a 1 million qui sont autour de Goma, où il y a donc déjà des combats donc depuis 2 ans avec un mouvement qu'on appelle le M23. Nous accueillons un certain nombre de filles qui sont victimes de la guerre là-bas. Et cela alimente beaucoup de violence contre les filles, et entre autres dans les camps. On ne se rend pas compte à quel point les femmes et les filles sont exploitées dans les camps de déplacés, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Il suffit d'aller chercher de l'eau le soir et on peut se faire violer. Il y a des mouvements féminins, entre autres, de femmes qui ont elles-mêmes été victimes et qui essayent de faire avancer les choses. Au niveau de l'État, le grand problème, c'est que la justice n'est pas fiable et donc on n'ose même pas poursuivre les violeurs parce que on n'aboutira pas. Et le problème de l'État, c'est de ramener la sécurité et l'ordre dans le pays, ce qui suppose que l'armée et la police soient contrôlées, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. En tout cas, il y a de l'espérance pour un chrétien, de l'espoir à court terme, pas beaucoup. Je vois quand même que la société civile prend de plus en plus de responsabilités. Et j'espère qu'elle arrivera quand même à pallier les insuffisances de l'État.
Des propos recueillis par le père Stanislas Kambashi lors de cette deuxième assemblée de Talitakoum, un réseau de religieux notamment qui célèbre ses 15 ans d'existence cette année. Et puis enfin, audience générale, l'humilité porte d'entrée de toutes les vertus. Le pape a conclu son cycle de catéchèse sur les vices et les vertus. Donc, il a médité aujourd'hui sur l'humilité lors de l'audience générale place Saint-Pierre. Le successeur de Pierre a souligné que l'humilité est une force invincible. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Excellente soirée.